VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 18h30 en universel. On est mardi 1er août 2017 au sommaire. En République démocratique du Congo, les réactions d'indignation se poursuivent après la répression et les arrestations qui ont suivi les manifestations anti-Kabila à l'appel de la Lucha. Au Kenya, manifestation au lendemain de la découverte du corps d'un responsable de la commission électorale à une semaine des élections générales.
La manifestation ce matin, c'est vraiment pour exprimer solidarité avec la famille, solidarité avec la commission.
Quelques 200 personnes ont tenté un forcing devant la clôture entre le Maroc et l'Espagne. Et au Venezuela, arrestation de deux chefs de l'opposition. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, au lendemain de la manifestation réprimée de la Lucha, lutte pour le changement, de nombreuses réactions ont été enregistrées. Des ONG locales et internationales comme des partis politiques de l'opposition condamnent la réaction de la police face à des manifestants dits pacifiques. Le gouvernement de son côté soutient que la manifestation n'était pas autorisée. Les détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Si la police nationale congolaise affirme que tous les manifestants arrêtés hier ont été libérés, le mouvement citoyen Lucha, initiateur des manifestations d'hier, souligne de son côté que près de 80 personnes restent en détention à Goma, Butembo, Beni, Lubumbashi et Kindu. L'ONG Amnesty International, elle, dénonce dans un communiqué l'usage excessif de la force par les agents de l'ordre lors de ces manifestations et invite les autorités congolaises à mettre un terme à la répression. Bien que tous les journalistes arrêtés aient été libérés selon l'Union nationale de la presse du Congo, Reporters sans frontières et Journalistes en danger déplorent, eux, la vague d'arrestations des journalistes intervenus hier et demandent instamment au nouveau chef de la police récemment nommé de respecter et faire respecter le travail des journalistes par leurs hommes lors des manifestations politiques. Au Sud Kivu, l'UNC de Vital Kamerhe, l'UDPS, l'ARC et les autres formations de l'opposition appellent à une journée ville morte ce mercredi 2 août 2017 pour protester contre la réaction disproportionnée de la police contre les manifestants d'hier. Ces partis exigent également la publication par la CENI du calendrier électoral. Au niveau du gouvernement, le vice-ministre de l'Intérieur, interrogé sur l'attitude et la réaction de la police face aux manifestants, a affirmé que la situation sécuritaire dans les villes où les mouvements citoyens Lucha avaient programmé sa marche ne permettait pas la tenue de cette manifestation. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, pourrait demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique. Il l'a laissé entendre à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui. Monsieur Lacroix a par ailleurs annoncé que les Nations Unies étaient en contact avec la Zambie et la Tanzanie pour remplacer les quelques 600 soldats congolais renvoyés à Brazzaville. Certains d'entre eux sont accusés d'abus sexuels et d'indiscipline. Au Kenya, quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus dans les rues de Nairobi ce mardi pour dénoncer le meurtre d'un haut responsable de la commission électorale à une semaine des élections générales du 8 août. Le corps de Chris Sando, un responsable chargé de superviser le système informatique de la commission électorale kényane, a été retrouvé avec des marques de torture près de la capitale. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Les autorités du Malawi ont émis un mandat d'arrêt contre l'ancienne présidente Joyce Banda, accusée d'être impliquée dans un gigantesque scandale de corruption. Le Cash Gate avait secoué le pays en 2013 et précipité sa défaite. Environ 30 millions de dollars avaient disparu des caisses de l'État dans des détournements impliquant des dizaines de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. Quelques 200 personnes ont tenté de forcer la clôture entre le Maroc et l'Espagne ce matin. 73 migrants ont pu entrer à Ceuta, l'enclave espagnole. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les migrants ont utilisé des cisailles et des masses pour forcer l'ouverture des portes. 15 d'entre eux et 3 gardes civils ont été blessés. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles au Maroc, sont régulièrement le théâtre de tentatives d'entrée massive de migrants africains en Europe. En février, 850 sont parvenus à Ceuta en seulement 4 jours. Ils ont pu franchir les deux hautes clôtures grillagées sur 8 kilomètres. En mars et en juin, deux voitures ont forcé le passage du poste frontière de Melilla. Melilla et Ceuta sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne.
La Commission européenne a par ailleurs appelé des ONG encore récalcitrantes à signer un code de conduite controversé du gouvernement italien qui prévoit de réguler leurs activités de secours de migrants au large de la Libye. Trois ONG internationales ont annoncé leur adhésion à ce texte qui vise notamment à interdire aux ONG de s'approcher des eaux libyennes et de communiquer avec les passeurs, y compris via toute forme de signaux lumineux. Ce code exige aussi la présence d'un policier à bord. Mais deux ONG, dont Médecins sans frontières, l'ont rejeté, estimant n'avoir pas obtenu des autorités les garanties suffisantes sur le port d'armes à bord de ces navires par des policiers italiens. La Chine a inauguré aujourd'hui à Djibouti sa première base militaire à l'étranger, aux portes de la mer Rouge. Le point avec John Lindon.
L'ouverture de cette base a été faite en présence du numéro 2 de la marine chinoise et du ministre de la Défense de Djibouti. Elle coïncide avec le 90e anniversaire de la fondation de l'armée rouge. Dans un discours à Pékin, le président Xi Jinping a assuré que son pays était confiant de pouvoir vaincre toute invasion potentielle. Cette base logistique est la première du genre pour Pékin. Le ministère chinois de la Défense a indiqué qu'elle servira à soutenir les escortes navales en Afrique et au Moyen-Orient et les opérations de maintien de la paix. Le premier contingent de soldats chinois est arrivé le mois dernier. La marine chinoise est présente depuis fin 2008 au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden pour combattre la piraterie. Djibouti compte déjà des bases militaires françaises, américaines et japonaises. Ce petit pays de la Corne de l'Afrique, situé sur le détroit de Bab el-Mandeb, est un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, au Venezuela, deux des chefs de l'opposition, dont le maire de Caracas, ont été arrêtés aujourd'hui, alors que le pays est sous le coup de sanctions des États-Unis après l'élection dans le sang d'une toute nouvelle assemblée constituante voulue par le président socialiste Nicolas Maduro. Les explications de Jacques Aristide.
Les opposants Leopoldo López et Antonio Ledezma avaient tous deux appelé à ne pas participer à l'élection dimanche dernier de cette constituante. Leur arrestation a été condamnée par la communauté internationale. La coalition de l'opposition a appelé à une nouvelle protestation ce mercredi à Caracas pour dénoncer l'illégitimité de la nouvelle assemblée dont les 545 membres vont désormais diriger le pays pour une durée indéterminée. Pour l'opposition, qui contrôle le Parlement depuis 2016. Cette élection n'a été tenue que pour prolonger le pouvoir du président Maduro, dont le mandat s'achève en 2019. Washington a également qualifié le scrutin d'illégitime et Maduro de dictateur. L'administration Trump a annoncé le gel de tous les avoirs que posséderait le président vénézuélien aux États-Unis. Il a réagi en déclarant qu'il n'obéissait pas aux ordres impérialistes et qu'il était un président libre. Le scrutin de dimanche a été marqué par des violences meurtrières. Plus de 120 personnes ont été tuées en 4 mois de manifestations anti-Maduro.
Le vice-président américain Mike Pence a affirmé ce mardi que le président Donald Trump approuverait prochainement les nouvelles sanctions visant la Russie, malgré la montée de la tension entre les deux pays. Ces nouvelles sanctions économiques ont été votées à la quasi-unanimité la semaine dernière dans les deux chambres du Congrès américain. La Russie a riposté en imposant une réduction drastique des personnes travaillant dans les missions américaines sur son sol, diplomatique ou personnel technique. Au moins 23 villes se sont portées candidates pour accueillir les deux agences européennes qui vont quitter Londres à la suite du Brexit, avec à la clé des retombées économiques prometteuses. Les futurs sièges des deux agences seront décidés par un vote des 27 États membres le 20 novembre prochain. Plusieurs critères ont été définis, la capacité d'être opérationnelle dès le transfert qui se fera avant le départ britannique de l'UE, l'accessibilité, la présence d'écoles, l'accès au marché du travail et aux soins médicaux. La Turquie a fustigé la déclaration d'un officiel américain laissant entendre qu'Ankara avait toléré l'émergence d'un bastion d'Al-Qaïda près de sa frontière en Syrie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Eki Abadou.
E-paiement pourrait devenir une solution de guichet unique pour 8 pays africains, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Sénégal. Des accords ont été signés entre les entreprises Total et Worldline avec la fintech africaine InTouch afin de permettre le guichet unique avec des réseaux de distribution pour les paiements sécurisés et offrir des prestations de services. Déjà déployé dans plus de 170 stations Total et plus de 600 points de vente indépendants au Sénégal, le guichet unique traite plus de 30 000 opérations par jour dans ce pays. L'objectif est d'atteindre 5000 points de vente à travers l'Afrique. Le ministère de l'Investissement et de la Corporation internationale de l'Égypte et l'agence régionale COMESA viennent d'annoncer la reconduite du forum Sharm el-Sheikh for Africa 2017. Pendant 3 jours, 1000 participants, dont des chefs d'État et des dirigeants d'entreprise, sont attendus dans le but de promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique. En septembre 2019, l'île Maurice sera dotée d'un métro léger capable de relier la capitale Port-Louis à la ville Curpipe, dans le centre de l'île, sur un tracé de 26 km. Le coût du projet est estimé à 460 millions d'euros. Les travaux vont débuter en septembre prochain. Il sera financé par un don indien de 240 millions d'euros et le reste par une ligne de crédit à des conditions avantageuses ouvertes par le même gouvernement indien.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Alors on démarre par cette question, où est Neymar? Où va-t-il signer? C'est la question brûlante à 222 millions d'euros qui anime le mercato cet été en football.
Doha, Paris ou Barcelone, mais où va Neymar? Lui-même s'en amuse, l'attaquant brésilien du FC Barcelone de retour de Chine s'est signalé ce mardi à Dubaï. Il a laissé entendre qu'il rentrait en Espagne alors que des sources l'évoquaient à Doha ou à Paris. Le FC Barcelone et l'entourage de Neymar confirment que le joueur rentre à Barcelone. En effet, il y a entraînement ce mercredi et la vie normale devrait reprendre son cours. La reprise du Barça après la tournée américaine a en effet été fixée à mercredi matin selon une source du club catalan.
En tout cas, le Barça a bloqué le paiement d'une prime à Neymar.
Et oui, le club a confirmé avoir bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros. Cette prime avait été négociée il y a un an quand le joueur déjà approché par le Paris Saint-Germain avait renouvelé son contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2021. Ce contrat incluait une prime de prolongation pour Neymar à la fin de la première année, ainsi qu'une augmentation de sa clause de cession de 200 à 222 millions d'euros.
La Ligue des Champions en Europe, troisième tour préliminaire retour.
Oui, c'est le troisième tour préliminaire retour. L'Ajax d'Amsterdam est favori pour la qualification recevant demain Nice après son bon résultat 1-1 à l'aller. À noter également le CSKA Moscou qui accueille l'AEK Athènes avec 2 buts d'avance. Le Baté Borisov qui doit remonter 1 but face au Slavia de Prague. Et puis le FC Copenhague qui l'avait emporté à l'aller face à Vardar 1-0. Les Young Burns de Berne qui avaient été sèchement battus en Ukraine par le Dynamo 3-1. Et puis le Victoria de Psen avait fait match nul à aller à Bucarest face au CTEA. Enfin, le Partizan de Belgrade aura 2 buts à remonter après sa défaite 3-1 à l'aller sur son terrain contre l'Olympiakos.
Los Angeles jette l'éponge pour 2024 et organisera les Jeux Olympiques d'été de 2028.
La ville californienne a déclaré officiellement sa candidature pour organiser les Jeux Olympiques d'été de 2028. Un accord avec le Comité international olympique qui prévoit que le CIO avancera des fonds au comité d'organisation de Los Angeles. On parle d'une somme évaluée à 1,8 milliard de dollars. En d'autres termes, Paris se retrouve désormais seul en lice pour l'organisation des JO 2024.
Coup dur pour l'athlétisme kényan.
Oui, David Rudisha, double champion du monde et double champion olympique du 800 mètres, a annoncé son forfait pour les mondiaux 2017 d'athlétisme à Londres. Et ce, en raison d'une blessure à un quadriceps. Sacré champion du monde en 2011 en Corée du Sud et en 2015 en Chine. Rudisha avait déjà manqué les mondiaux de 2013 à Moscou en raison d'une blessure à un genou.
Merci beaucoup, Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Les Rwandais se préparent à aller aux urnes le 4 août prochain. Le président sortant Paul Kagame, le grand favori du scrutin, est salué par ses admirateurs pour avoir mis fin au génocide de 94 et pour ses réalisations sur le plan économique, mais il est perçu par ses détracteurs comme un despote. Selon Anyamulisa, joint Innocent Mouzi, les journalistes burundais réfugiés au Kenya.
Il n'y a aucun doute, il n'y a pas de commune mesure entre lui et les autres candidats, pas de suspense sur cette affaire-là. Il est très populaire ici pour des raisons qui sont vraiment objectives. D'abord, c'est lui qui a arrêté le génocide qui était en cours. Il a créé les conditions de vivre ensemble encore pour les Rwandais. C'est un pays où tout le monde pratiquement se sent en sécurité physique. Plus que ça, il a aussi créé ce système de sécurité côté santé qui permet aux Rwandais en fait de pouvoir se soigner avec une carte d'assurance maladie. Mais également, il a considérablement travaillé sur les questions de sécurité alimentaire qui fait que les Rwandais aujourd'hui souffrent beaucoup moins de malnutrition, même si encore dans certaines régions du pays des problèmes de sécheresse saisonnière, et puis le pays est un véritable chantier constant.
Sur le plan économique, quels sont les changements observés?
Aujourd'hui, le Rwanda, si vous regardez au classement mondial, ça reste un pays pauvre, avec un PIB qui tourne autour de 750 $ disons, par habitant. Mais malgré cela, c'est le 7e au niveau mondial en termes d'efficacité d'État. C'est un pays où la corruption est très, très, très basse. Le pays le moins corrompu de la région. C'est un pays qui fait des progrès considérables et qui est toujours classé parmi les meilleurs au niveau mondial en termes de rapport de la Banque mondiale. C'est vraiment un pays qui a des performances qui sont reconnues de manière spectaculaire, malgré que ça reste quand même un pays pauvre.
Sur le plan politique, sur le plan
de la vision, c'est un monsieur qui est une sorte de synthèse de beaucoup de révolutionnaires africains. Vous retrouvez un peu de Sankara chez lui, vous retrouvez un peu de Nkrumah chez lui, vous retrouvez un peu de Mandela. Contrairement à tous les autres grands leaders africains, non seulement a une ambition, une vision, mais arrive à transformer cette vision en réalité. Il aborde les problèmes de sa société de manière pragmatique, mais sans complexe en même temps. Et surtout en se préoccupant fondamentalement de sa population. C'est ce qui manque peut-être terriblement sur le continent africain, c'est que les gens viennent pouvoir manifestement pour s'enrichir. On voit de manière très claire que personne n'est vraiment au-dessus de la loi. Des gens très puissants dans le système ont eu des moments de disgrâce, ont fait même la prison. Donc c'est vraiment un pays qui est sur une vision très simple de dire nous avons des problèmes, nous pouvons résoudre ces problèmes en comptant sur nous-mêmes, en nous mettant à travailler et en mettant de l'éthique dans la gestion de la chose publique. Il prouve simplement que l'Afrique n'est pas maudite, qu'elle peut s'en sortir avec un leadership sérieux.
Quels sont les défis que rencontrent les Rwandais dans leur vie quotidienne?
C'est le chômage des jeunes. Et ça, c'est une difficulté considérable. C'est peut-être cela qui est en train de faire prendre le choix de l'industrialisation au Rwanda. Mais c'est également d'autres défis sur le plan de l'expression en terme de l'association. Cela, encore une fois, est à mettre dans le contexte de l'histoire récente de ce pays où il y a une priorisation, en fait, d'action à mener par rapport au progrès de cette société. Mais fondamentalement, aujourd'hui, la grande question, c'est vraiment le chômage des jeunes.
Le journaliste burundais Innocent Mouzi joint plutôt au Rwanda et non au Kenya. Au Kenya justement, où nous allons, quelques dizaines de militants des droits de l'homme sont descendus aujourd'hui dans les rues de Nairobi pour dénoncer le meurtre de Chris Musando, un haut responsable de la commission électorale. Sur les incidences de ce meurtre sur les élections générales du 8 août, Eric Manirakiza a joint à Nairobi Mutoni Wanyeki d'Amnesty International.
Évidemment, l'assassinat était choquant pour tout le monde. Pour nous, les élections concernent les peuples, le droit de voter, le droit d'assister dans la vie publique. L'assassinat vraiment a créé beaucoup de peur.
Il y a eu une manifestation aujourd'hui à un groupe de militants des droits de l'homme. Est-ce que c'est une manifestation qui peut prendre une autre ampleur demain?
La manifestation ce matin, c'est vraiment pour exprimer solidarité avec la famille, solidarité avec la commission, pour dire aux gens au Kenya, ne laissez pas cet assassinat leur empêcher d'exercer leurs droits.
Le Kenya a connu des moments meurtriers liés aux élections. Est-ce que c'est une situation qui peut se répéter?
L'atmosphère vraiment dépend du comportement des institutions publiques. Premièrement, la commission chargée avec les élections doit faire son travail indépendamment, sans peur, selon les lois, la constitution et tout ça. Et les agences de sécurité doivent aussi protéger les peuples. Mais s'il y a une semblance de partisanat, ça devient grave.
Qu'est-ce qui peut expliquer son assassinat? Est-ce que c'était une personnalité gênante au niveau de la commission? Est-ce que l'enjeu électoral se jouait sur la crédibilité de cette personne?
L'usage de technologie est très important dans ce processus. Il était très professionnel. Il est chargé avec le système de transmission, le système d'identification des voteurs. Oui, c'est très sérieux de voir ça.
Est-ce que la situation est calme dans le reste du pays?
Oui, les gens sont très fâchés, les gens sont agités. L'assassinat a créé beaucoup de peur aussi. Mais la situation est calme. Il y a des lieux, il y a d'instabilité, la côte.
Quel est le comportement des responsables politiques, opposition, mouvance présidentielle pour calmer la situation?
Ils ont demandé une enquête indépendante, comme tout le monde.
Il n'y a pas de message de pacification?
Mais même le président n'a rien dit. Hein? Les campagnes continuent.
C'était Mutoni Wanyeki d'Amnesty International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Direction le Tchad, les habitants de la sous-préfecture de Hajer Hadid, située à l'est, n'ont pas d'eau potable. Ils s'approvisionnent des puits creusés dans le lit du fleuve Wadi en provenance du Soudan, avec tous les risques sanitaires. André Kolmajingar a séjourné dans cette partie du pays. Voici son reportage.
Estimée à 50 000 habitants environ pour une superficie de plus de 1000 km², la population de la sous-préfecture de Hajer Hadid a pour souci majeur de l'eau. Les châteaux d'eau construits par le gouvernement et les ONG ne fournissent plus d'eau. Ils sont tombés en panne peu de temps après. Et pour leur survie, les habitants font recours à l'eau des puits creusés sur le lit du Wadi Hamra, situé à 2 km de la ville par certains bras valides. L'un des gérants de ces puits artisanaux, Hassan Bakit, explique le mécanisme.
Notre zone est traversée par les wadis en provenance du Soudan. Nous avons décidé de creuser des puits traditionnels de ce cours d'eau. Ces puits ont une profondeur de 5 à 10 mètres. En saison de pluie, de peur que des wadis ne viennent troubler l'eau du puits, nous scellons des puits et utilisons des pompes à moteur pour servir de l'eau aux colporteurs.
Brahim Ali, colporteur depuis plusieurs années, affirme avoir gagné sa vie avec cette activité, même si la qualité hygiénique de l'eau qu'il vend dans les ménages est douteuse.
Avant, nous consommons de l'eau des châteaux, mais elle est amère. Et maintenant que ces châteaux même ne fonctionnent plus, nous avons trouvé une autre alternative. Nous parcourons 2 km à dos de cheval pour chercher de l'eau à Wadi Hamra et la revendre au quartier. Nous revendons un bidon de 20 litres à 75 francs aux personnes vulnérables et 100 francs à ceux qui ont un peu de moyens. Les prix d'un fût varient également entre 500 et 600 francs selon le rang social de la personne. L'activité me permet de prendre ma famille et moi-même en charge.
Selon les notables, Hajer Hadid veut dire une montagne en arabe local qui signifie le rocher qui contient de fer. Et donc la localité elle-même est assise sur un socle cuirassé qui ne permet pas d'obtenir de l'eau potable, à moins qu'une étude approfondie soit faite par les spécialistes. Toutefois, le sous-préfet de la localité, Idriss Kony Chidi, lance un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population.
Hajer Hadid a un problème d'eau. C'est demande des techniciens pour voir de l'eau. Je demande au gouvernement et aux humanitaires qui interviennent dans ces zones, qui viennent en secours et les bonnes volontés. L'eau n'est pas traitée. Si l'oiseau vient tout de suite, ils vont prendre leur matériel et ils vont courir. Et je crois que même à l'hôpital, les gens font des sensibilisations pour traiter de l'eau. En eau de Javel, il y a des châteaux qui sont construits par l'État. Mais le problème est qu'il n'y a pas de matériel si la château est tombée en panne pour le dépanner.
André Kodouma Djingar de retour de Hadjaradit, N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Nouveau rebondissement dans la politique américaine après la démission du secrétaire général de la Maison-Blanche, Hans Priebus, vendredi soir et la nomination de John Kelly. Anthony Scaramucci, le chef de la communication de la Maison-Blanche, a été limogé hier, 10 jours après son arrivée. Pour une analyse, Claire Morin-Jubourg a joint en Virginie le professeur James Caesar.
C'était assez surprenant parce que cela est arrivé assez vite. Mais quand le secrétaire général a changé à la Maison-Blanche, ce n'est pas finalement un grand surpris.
Que pensez-vous de son successeur, John Kelly? Il s'agit d'un profil radicalement différent.
De Hans Priebus, oui, très différent. Alors, mais c'était certainement nécessaire. Hans Priebus a perdu le contrôle de la Maison-Blanche, de tous les conseillers. Il fallait avoir quelqu'un de différent. Alors, John Kelly, ancien général, est très compétent et il aura le respect, si c'est possible, il aura le respect de tous les membres de la Maison-Blanche.
Et selon vous, qu'est-ce que doit faire cette nouvelle équipe pour assainir la vie politique?
Ah oui, énormément de soucis. Et il dépend finalement sur le président. On ne peut pas remplacer le président. Donc, on va voir si le président peut vivre les conseils de General Kelly et s'il aura à l'avenir la possibilité de gérer la Maison-Blanche. Et ça va dépendre des décisions du président lui-même. Et avec le président, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Mais pour le moment, ça a l'air d'être une décision qui est très correcte.
Que pensez-vous du futur de cette administration?
L'avenir de président Trump, alors, il va probablement rester en président. Si on regarde le bilan de ce qu'il a fait, on peut défendre son entreprise en tant que président. En tant que son comportement, alors, ça laisse beaucoup à dire. C'est vrai qu'il n'est pas présidentiel dans son il n'est pas présidentiel. Il est différent d'autres présidents. Il insulte les autres. Il tweet des choses favorables. Alors, il y a beaucoup de problèmes dans cet aspect du problème. Mais si on suit ce qu'il a fait, alors pour le moment, on peut défendre sa présidence.
C'était l'analyste politique James Caesar, joint en Virginie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Sims Lumami. À la console, Alfredo Santos et Bill Barbo. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.